C'est en l'année qui suivit la mort de maman que j'aperçus pour la première fois Abelone. Abelone était toujours là. C'était même son tort le plus grave. Et puis, Abelone n'était pas sympathique. C'est ce que j'avais constaté un jour, autrefois, en je ne sais plus quelle occasion, et je n'avais jamais sérieusement vérifié cette opinion. Quant à demander une explication quelconque touchant la présence ou la nature d'Abelone, cela m'eût semblé jusque-là presque ridicule. Abelone était là, et on usait d'elle tant bien que mal. Mais tout à coup, je me demandais, pourquoi Abelone est-elle là? Chacun de nous a pourtant une certaine raison d'être, ici, même si elle n'est pas toujours à première vue apparente, comme par exemple l'utilité de Mademoiselle Ox. Mais pourquoi Abelone était-elle toujours là? À un moment donné, on m'avait dit qu'elle devait se distraire, puis ce fut de nouveau oublié. Personne ne contribuait en rien à la distraction d'Abelone. On n'avait pas du tout l'impression qu'elle dût se divertir beaucoup. D'ailleurs, Abelone avait une qualité, elle chantait. C'est-à-dire qu'il y avait des périodes durant lesquelles elle chantait. Il y avait en elle une musique forte et immuable. S'il est vrai que les anges sont mâles, on peut dire qu'il y avait un accent mâle dans sa voix, une virilité rayonnante, céleste. Moi qui, comme enfant déjà, étais si méfiant à l'égard de la musique, non pas parce qu'elle me soulevait plus violemment que tout hors de moi-même, mais parce que j'avais remarqué qu'elle ne me déposait plus où elle m'avait trouvé, mais plus bas, quelque part dans l'inachevé. Je supportais cette musique sur laquelle on pouvait monter, monter, debout, très droit, de plus en plus haut, jusqu'à ce que l'on pensât que l'on pouvait être à peu près au ciel, depuis un instant déjà. Je ne soupçonnais pas alors qu'Abelone dût encore m'ouvrir d'autres cieux. Tout d'abord, nos rapports se bornèrent à ceci qu'elle me parlait de l'enfance de maman. Elle tenait beaucoup à me persuader combien courageuse et jeune maman avait été. Il n'y avait personne jadis, à l'en croire, qui eût pu se mesurer avec maman dans la danse et l'équitation. Elle était la plus hardie de toutes et infatigable. Et puis, elle se maria tout à coup, disait Abelone, qui depuis tant d'années n'était pas revenue de son étonnement. Cela arriva de façon si inattendue, personne n'y comprenait rien. Je fus curieux de savoir pourquoi Abelone ne s'était pas mariée. Elle me paraissait âgée relativement, et qu'elle pût encore épouser quelqu'un, c'est à quoi je ne songeais pas. « Il n'y avait personne, » répondit-elle simplement. Et en prononçant ces mots, elle devint très belle. « Abelone est-elle belle ?» me demandai-je surpris. Puis je quittai la maison pour l'académie nobiliaire et une période odieuse et pénible de ma vie commença. Mais lorsque là-bas, à Soro, j'étais debout dans l'embrasure de la fenêtre, à l'égard des autres et qu'ils me laissaient un peu en paix, je regardais dehors, vers les arbres, et en de tels instants de la nuit, la certitude grandissait en moi qu'Abelone était belle. Et je commençais de lui écrire toutes ces lettres, longues et brèves, beaucoup de lettres secrètes, où je croyais parler d'Ulsgarde et de mon infortune. Mais je vois bien à présent qu'elles durent être des lettres d'amour. Et enfin vinrent les vacances, qui d'abord ne voulaient pas se décider à approcher, et ce fut comme d'un accord préalable que nous ne nous revîmes pas devant les autres. Il n'y avait rien du tout de convenu entre nous, mais lorsque la voiture vira pour entrer dans le parc, je ne pus m'empêcher de descendre, peut-être seulement parce que je ne voulais pas arriver en voiture comme n'importe quel étranger. Nous étions déjà en plein été. Je pris l'un des chemins et courus vers un citise. Et voici qu'Abelone était là. Belle! Oh, belle Abelone! Je n'oublierai jamais comment ce fut lorsque tu me regardas alors. Comme tu portais ton regard, pareil à une chose qui ne serait pas fixée, le retenant sur ton visage incliné en arrière. Ah, le climat n'a-t-il donc pas du tout changé? Ne s'est-il pas adouci autour d'Ulsgarde de toute notre chaleur? Certaines roses depuis lors ne fleurissent-elles pas plus longtemps? Dans le parc, jusqu'en plein décembre. Je ne veux rien raconter de toi, Abelone, non parce que nous nous trompions l'un l'autre, parce que tu en aimais un, encore en ce temps-là, que tu n'as jamais oublié, aimante, et moi, toutes les femmes, mais parce que, à dire les choses, on ne peut que faire du mal. Il y a ici des tapisseries, Abelone, des tapisseries. Je me figure que tu es là. Il y a 6 tapisseries. Viens, passons lentement devant elles. Mais d'abord, fais un pas en arrière et regarde-les toutes à la fois. Comme elles sont tranquilles, n'est-ce pas? Il y a peu de variété en elles. Voici toujours cette île bleue et ovale, flottant sur le fond discrètement rouge qui est fleuri et habité par de petites bêtes tout occupées d'elles-mêmes. Là seulement, dans le dernier tapis, l'île monte un peu comme si elle était devenue plus légère. Elle porte toujours une forme, une femme en vêtements différents, mais toujours la même. Parfois, il y a à côté d'elle une figure plus petite, une suivante, et il y a toujours des animaux héraldiques, grands, qui sont sur l'île, qui font partie de l'action. À gauche, un lion, et à droite, en clair, la licorne. Ils portent les mêmes bannières qui montent haut au-dessus d'eux, de gueules à bandes d'azur aux 3 lunes d'argent. As-tu vu? Veux-tu commencer par la première? Elle nourrit un faucon. Vois son vêtement somptueux. L'oiseau est sur sa main gantée et bouge. Elle le regarde et en même temps, pour lui tendre quelque chose, plonge la main dans une coupe que la domestique lui apporte. À droite, en bas sur sa traîne, se tient un petit chien au poil soyeux qui lève la tête et espère qu'on se souviendra de lui. Et, as-tu vu, une roseraie basse enclôt l'île par derrière. Les animaux se dressent avec un orgueil héraldique. Les armes de leur maîtresse se répètent sur leur mantelet qu'une belle agrafe retient et flotte. Ne s'approche-t-on pas malgré soi plus silencieusement de l'autre tapisserie dès qu'on a vu combien la femme est plus profondément absorbée en elle-même? Elle tresse une couronne, une petite couronne ronde de fleurs. Pensive, elle choisit la couleur du prochain œillet, dans le bassin plat que lui tend la servante, et tout en nouant le précédent. Derrière elle, sur un banc, il y a un panier de roses qu'un singe a découvert. Mais il est inutile, cette fois c'est des œillets qu'il fallait. Le lion ne prend plus part, mais à droite, la licorne comprend. Ne fallait-il pas qu'il y eût de la musique dans ce silence? N'était-elle pas déjà secrètement présente? Gravement et silencieusement ornée, la femme s'est avancée, avec quelle lenteur, n'est-ce pas, vers l'orgue portatif, et elle en joue debout. Les tuyaux la séparent de la domestique, qui de l'autre côté de l'instrument actionne les soufflets. Je ne l'ai jamais vue si belle. Étrange est sa chevelure, réunie sur le devant en 2 tresses qui sont nouées au-dessus de la tête et s'échappent du nœud comme un court panache. Contrarié, le lion supporte les sons, malaisément, en contenant son envie de hurler. Mais la licorne est belle, comme agitée par les vagues. L'île s'élargit, une tente est dressée, de damas bleu et flammée d'or. Les bêtes l'ouvrent et presque simple dans son vêtement princier, elle s'avance. Car que sont ces perles auprès d'elle-même? La suivante a ouvert un petit étui et à présent elle en tire une chaîne, un lourd et merveilleux bijou qui était toujours enfermé. Le petit chien est assis près d'elle, surélevé, à une place qu'on lui a aménagée et le regarde. Et as-tu découvert le verset en haut de la tente? Tu peux y lire « À mon seul désir ». Qu'est-il arrivé? Pourquoi le petit lapin saute-t-il là, en bas? Pourquoi voit-on immédiatement qu'il saute? Tout est si troublé. Le lion n'a rien à faire. Elle-même tient la bannière. Où s'y cramponne-t-elle? De l'autre main, elle touche la corne de la licorne. Est-ce un deuil? Le deuil peut-il rester ainsi debout? Et une robe de deuil peut-elle être aussi muette que ce velours noir, vert et par endroits fané? Mais une fête vient encore. Personne n'y est invité. La tante n'y joue aucun rôle. Tout est là. Tout pour toujours. Le lion se retourne, presque menaçant. Personne n'a le droit de venir. Nous ne l'avons jamais vue lasse. Est-elle lasse? Ou ne s'est-elle reposée que parce qu'elle tient un objet lourd? On dirait un ostensoir. Mais elle ploie son autre bras vers la licorne, et l'animal se cabre, flatté, et monte, et s'appuie sur son giron. C'est un miroir qu'elle tient. Vois-tu? Elle montre son image à la licorne. Abelone, je m'imagine que tu es là. Comprends-tu, Abelone? Je pense que tu dois comprendre.